deuxième conférence de cet après-midi. C'est Paolo Tortonese qui va nous parler. Paolo Tortonese enseigne à la Sorbonne Nouvelle à Paris 3. Il est un grand spécialiste de Théophile Gautier, du grand maître romantique Théophile Gautier. Il a beaucoup écrit sur Théophile Gautier. Il a publié il y a peut-être 10-15 ans, je crois, Le visage du double, et au début des années 2000 ou en 2006, L'œil de Platon et le regard romantique. Et aujourd'hui, Paolo Tortonese va nous parler de Baudelaire, romantique et anti-romantique.
Merci. Il existe de nombreux livres sur Baudelaire dont le titre inclut le mot « moderne » ou le mot « modernité ». Mais je n'en ai trouvé que deux ou trois où apparaissent le mot « romantique » ou le mot « romantisme ». C'est un indice, peut-être pas tout à fait anecdotique, du peu d'intérêt que la critique sur Baudelaire a manifesté pour la notion de romantisme. Sans doute, cela s'explique par une vision acquise, selon laquelle Baudelaire est l'initiateur d'une saison poétique toute neuve, s'ouvrant au milieu du XIXe siècle. Pour l'histoire littéraire, Baudelaire vient du romantisme, mais il s'en sépare nettement. En tant que critique d'art, il est, oui, le chantre de Delacroix, mais il ouvre la voie à Manet. Antoine Compagnon a dressé dans la postface à son édition des Fleurs du Mal une liste des légendes dans lesquelles Baudelaire a été enfermé, d'abord par ses contemporains, puis par la critique jusqu'à aujourd'hui. Ces légendes, ces mythes, si on préfère, ces images stéréotypées, ont été certes nécessaires pour que Baudelaire trouve sa place dans notre culture. Mais elles ont toujours quelque chose de décevant, et notre expérience de lecteur se trouve à l'étroit dans chacune d'elles. Antoine Compagnon avait énuméré 11 Baudelaire différents. Le réaliste, le satanique, le décadent, le symboliste, le classique, le catholique, le moderne, le réactionnaire, le superpoète, entre guillemets, l'essentiel, le postmoderne. De ces 11 visages, deux seulement sont, à mon avis, sans aucun doute romantiques, le satanique et l'essentiel. Deux peuvent être envisagés dans la continuité historique du romantisme, décadent et symboliste, mais 5 ont été conçus comme clairement anti-romantiques, réalistes, classiques, modernes, postmodernes et aussi superpoètes. Le catholique et le réactionnaire me semblent ambivalents. Globalement, donc, les visages anti-romantiques de Baudelaire sont plus nombreux que les visages romantiques. La question, certes, est aussi vieille que l'œuvre de Baudelaire. En 1862, déjà, Sainte-Beuve donnait par une belle métaphore, qu'Alain Vaillant a déjà citée, mais que je recite, son idée de la position de Baudelaire par rapport au romantisme. Monsieur Baudelaire a trouvé le moyen de se bâtir à l'extrémité d'une langue de terre réputée inhabitable et par-delà les confins du monde romantique connu, un kiosque bizarre, fort orné, fort tourmenté, mais coquet et mystérieux. Ce singulier kiosque fait un marqueterie d'une originalité concertée et composite qui, depuis quelque temps, attire les regards à la pointe extrême du Kamchatka romantique. J'appelle cela la folie Baudelaire. Ce passage est d'une extrême ambiguïté. Baudelaire se situe-t-il par-delà le romantisme ? Sainte-Beuve ne dit pas exactement cela. Il dit « par-delà les confins du monde romantique connu », comme si Baudelaire élargissait l'espace du romantisme, découvrait des terres que le romantisme n'avait pas encore connues. Mais d'une certaine façon, ces terres, explorées et colonisées par Baudelaire, étaient par lui annexées au romantisme. La folie Baudelaire se situe donc à la pointe extrême d'un territoire qui, d'une part, est nouveau, encore inconnu des romantiques, d'autre part, fait partie d'un romantisme élargi. Sainte-Beuve semble donc avoir posé la question que nous continuons à nous poser aujourd'hui, ce qui est presque désespérant. Pouvons-nous sortir de l'impasse et comment ? La tâche n'est pas des moindres. En discutant de la posture de Baudelaire à l'égard du romantisme, nous finissons nécessairement par être confrontés au sens de ce mot. La discussion nous entraînerait donc vers d'immenses problèmes d'histoire littéraire, ce qui peut effrayer, mais qui peut aussi constituer le véritable intérêt d'une interrogation vieille, usée, et que certains jugeront peut-être ringarde. Évidemment, je ne peux pas prétendre résoudre cette question en une demi-heure de conférence. Ce que je vais donc tenter, c'est simplement de rouvrir le dossier en m'interrogeant sur ce que dit Baudelaire lui-même du romantisme, sur son usage des mots romantique et romantisme dans les écrits littéraires et artistiques. Le mot romantique, d'ailleurs, apparaît dans un seul texte poétique, dans le sonnet « Le coucher du soleil romantique » en 1862. En revanche, les deux mots sont présents une petite centaine de fois dans le corpus de la critique littéraire et artistique. Sur ces occurrences, et surtout celles où Baudelaire définit lui-même le sens de ces mots, je voudrais m'arrêter un instant. Je vais les examiner dans l'ordre chronologique. Nous avons d'abord le salon de 1845 et quelques écrits de la même année. Le jeune Baudelaire fait déjà apparaître des nuances qui reviendront souvent par la suite. Il définit la poésie d'une figure peinte par Delacroix comme, je cite, « poésie intime, mystérieuse et romantique ». Il l'associe au talent d'harmoniste du peintre. En défendant de Veria, il l'appelle « vieille gloire romantique », ce qui ne semble pas dépréciatif, mais il évoque les ruines de l'ancien romantisme à propos de Boulanger, qu'il éreinte sans pitié. Il reproche à ce peintre d'avoir subi l'influence néfaste de Victor Hugo sur un point déterminant. Boulanger semble croire, comme ce mauvais maître, que l'inspiration suffit. C'est le poète, écrit Baudelaire, qui a fait tomber le peintre dans la fosse. À propos d'Henri Baron, Baudelaire dit que sa peinture est le rococo du romantisme, parce qu'elle manque d'un tempérament particulier. Il qualifie de romantique une tête peinte par Hafner, qui lui a singulièrement plu, et il touche au comble de la duplicité à propos d'un tableau de Madame Pansotti. Il évoque son affaîtrie naïve d'album romantique et avoue que ce tableau lui plaît malgré ou peut-être à cause de cette affaîtrie. Il reprend sa polémique quelques pages plus loin en blâmant Antonin Moine, coupable d'avoir confondu peinture et sculpture. Il s'exclame alors « Voilà où le romantisme a conduit quelques-uns ». Ce premier salon fait donc apparaître un discours complexe. Le romantisme est un type de poésie ou d'image lié à un type de tempérament qui exerce un charme permanent sur le critique, mais qui peut se corrompre dans une affaîtrie, dans un rococo ou dans une confusion des genres qui semble due à une doctrine mauvaise et dangereuse. Dans cette doctrine, nous trouvons une foi excessive en l'inspiration, donc en la subjectivité poétique, mais cette même subjectivité semble par ailleurs nécessaire. C'est le mot « tempérament » qui est tout à fait positif. Et d'ailleurs, l'absence de tempérament rend le savoir technique insuffisant et la peinture froide. À la singularité de l'inspiration répond la singularité de l'image. Lorsqu'un buste lui paraît assez original pour être un portrait, Baudelaire peut le qualifier de romantique. Situé entre les deux premiers salons, 45 et 46, un autre texte de critique d'art apporte un complément important. C'est le compte-rendu de l'exposition classique au Bazar Bonne Nouvelle, publié en janvier 46. Un passage de cet article contient une polémique contre les jeunes artistes romantiques. La pensée de Baudelaire est ici assez clairement posée. Il défend la peinture des David, Guérin et Giraudet, des Proudhon et des Gros aussi, et même d'Ingres, dont il dit le plus grand bien, alors que plus tard, vous le savez, il changera d'avis. En défendant ces grands peintres considérés comme classiques, Baudelaire s'oppose à la génération des jeunes romantiques, la « fausse école », il les appelle, qui affichait du mépris pour l'école davidienne tout entière, maître, élève et imitateur confondus. Séparer le grand David des infimes qui le singeaient, c'eût été déjà quelque chose d'astucieux. Mais Baudelaire se livre à une opération beaucoup plus complexe et bien plus originale. D'abord, il s'érige contre la fausse école romantique tout entière, celle des grands poètes, encore Hugo ou mauvais maître, et pas seulement celle des rapins enthousiastes. Puis il reproche aux romantiques de n'avoir rien compris à leur propre origine, de n'avoir pas saisi le rapport qui existe entre leur propre art et l'art des classiques, au sens restreint de la peinture révolutionnaire, sévère dans la pensée et dans l'âme. Ce rapport, cette filiation, voilà le plus important, apparaissent aux yeux de Baudelaire parce que la peinture révolutionnaire ouvre la voie à l'expression de la société moderne. Ce sont ces mots. Et cette expression de la société moderne n'est rien d'autre que le romantisme lui-même. La boucle est ainsi bouclée. Au faux romantisme des imitateurs de Victor Hugo, peut-être aussi des mauvais imitateurs de Delacroix, Baudelaire oppose un autre romantisme qui consiste précisément en une peinture moderne inventée par David et par ses meilleurs élèves. Cela peut paraître paradoxal, et le paradoxe a dû séduire Baudelaire. Mais ce n'est pas pour autant une absurdité. Tous ces peintres du classicisme d'époque révolutionnaire et impériale ont été décriés par les romantiques à cause de leur sujet gréco-romain, mais ils ont tous également traité des sujets modernes. Baudelaire a admiré le Marat assassiné de David, la bataille d'Eylau de Gros, tableau à sujet historique moderne. Il a aimé l'Atala de Girodet et d'autres peintures tirant leur sujet de la littérature moderne au sens large, incluant par exemple tout ce qui est inspiré de Shakespeare, comme Le roi Lear et ses filles de Gros. Baudelaire veut donc faire la liaison entre, d'une part, cette peinture classique qui découvre les sujets modernes, et d'autre part, le Delacroix du massacre de Sceaux, le Delacroix dantesque et shakespearien. S'il établit ce lien, c'est grâce à la notion de moderne, et d'un moderne tout littéraire. Ainsi, en commentant le Marat assassiné de David, Baudelaire le compare à un roman de Balzac, avec son drame, son horreur, son étrangeté. Il conclut que ce tableau, chef-d'œuvre de David, est l'une des grandes curiosités de l'art moderne. Pour comprendre cette attitude de Baudelaire, il faut remonter à Stendhal. Cela a été dit et répété par les meilleurs spécialistes, Yoshio Abe, Patrick Labarthe, Pierre Laforgue. En 1823-1824, Stendhal appelle de ses voeux une peinture d'histoire nationale, traitant des sujets comme la mort de Henri III ou la cour de Louis XIV. Il ne va pas jusqu'à des scènes contemporaines en habits modernes, sauf bien sûr ce qui est lié à Bonaparte et à son épopée. Baudelaire reprend ses idées et semble soumettre la possibilité du sujet moderne en peinture à une condition d'héroïsme qui est très stendhalienne. Seulement, il trouve désormais l'exemple de cette possibilité dans l'œuvre de Balzac. Voici ce qu'il écrit dans le Salon de 46. « Car le héros de l'Iliade ne vont qu'à votre cheville, ô Vautrin, ô Rastignac, ô Birotteau. Et vous, ô honoré de Balzac, vous le plus héroïque, le plus singulier, le plus romantique et le plus poétique parmi tous les personnages que vous avez tirés de votre sein. » Ce sont les derniers mots du Salon de 46. Une page plus haut, Baudelaire avait donné une des premières évocations de ces sujets modernes urbains qu'il souhaitait voir peints. Le spectacle de la vie élégante et des milliers d'existences flottantes qui circulent dans les souterrains d'une grande ville, criminels et filles entretenues, la Gazette des tribunaux et le Moniteur nous prouvent que nous n'avons qu'à ouvrir les yeux pour connaître notre héroïsme. À cette date, donc, les trois qualités, romantique, moderne et héroïque, se tiennent très strictement liées les unes aux autres. On sait que le Salon de 46 contient la discussion la plus approfondie que Baudelaire ait jamais tenté du sens du mot romantisme. Qu'est-ce que le romantisme ? C'est le titre d'une des parties de ce salon. Je vais essayer d'en résumer au moins les points principaux. La première remarque de Baudelaire porte sur la nécessité pour l'artiste de réunir en lui la naïveté et le romantisme. La naïveté, c'est l'expression sincère de son tempérament. Et le romantisme, c'est l'expression la plus récente et la plus moderne de la beauté. Ces deux éléments seront développés tout au long du salon. Le second élément d'abord. Baudelaire insiste et reprend la formule presque à l'identique. Pour moi, le romantisme est l'expression la plus récente, la plus actuelle du beau. Il ajoute, s'appeler romantique et regarder systématiquement le passé, c'est se contredire. Plus loin, qui dit romantisme dit art moderne. Et lorsqu'il présente Delacroix, romantique, il lui octroie le titre de chef de l'école moderne. L'expression de la beauté moderne n'est pas seulement conçue comme un problème de sujet à peindre, mais surtout comme un problème de sensibilité du peintre. Baudelaire affirme que peu de romantiques ont trouvé le romantisme et analyse les causes de leur échec. La première, c'est qu'ils ne se sont appliqués qu'au choix des sujets, les voulants, catholiques par exemple, contre l'Antiquité. La seconde, c'est qu'ils ont uniquement cherché la vérité dans l'art ou la couleur locale. Une troisième erreur, évoquée plus loin, consiste à chercher le romantisme dans la perfection du métier. Cela produit justement le rococo du romantisme que nous avions déjà rencontré. À ces deux erreurs, Baudelaire oppose sa propre doctrine. Le romantisme n'est précisément ni dans le choix des sujets, ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de sentir. Cette inversion de perspective n'est pas dépourvue de conséquences. Le sujet moderne héroïque semble mis de côté, mais il revient par une voie inattendue. Ayant insisté sur le sentiment de l'artiste, sur le fait qu'il doit chercher le romantisme en dedans et non pas en dehors de lui-même, ayant pour ainsi dire subjectivisé l'art, Baudelaire procède à établir son caractère historique. Voici comment. Il insiste sur l'individualisme de l'art, ce qui lui semble impliquer sa diversité. Il y a autant de beauté qu'il y a de manière habituelle de chercher le bonheur. Là, chacun reconnaîtra Stendhal, dont Baudelaire a lu de l'amour. Cette diversité de l'art, inévitable à partir d'une conception de l'art comme fondée sur l'artiste, subit pourtant une correction qui est toute stendhalienne elle aussi. Au lieu de produire une dispersion incontrôlée, autant de sujets, autant d'arts différents, elle se soumet aux lois de l'histoire et même à celles du progrès. La philosophie du progrès explique ceci clairement. Ainsi, comme il y a eu autant d'idéal qu'il y a eu pour les peuples de façon de comprendre la morale, l'amour, la religion, etc., le romantisme ne consistera pas dans une exécution parfaite, mais dans une conception analogue à la morale du siècle. C'est là que nous retrouvons le moderne comme adéquation à ce qui est actuel, récent, et donc l'impératif que Stendhal avait mis au centre de son livre sur Racine et Shakespeare en 1824. Mais vous voyez que nous y sommes parvenus par la voie d'une conception de l'art comme fondée sur la sensibilité de l'artiste, puis par la relativisation historique de cette sensibilité. L'art suit le courant d'une large évolution des sociétés. C'est pourquoi, lorsque Baudelaire tente de se résumer par une formule, la formule peut-être la plus célèbre de ce salon, il mélange et superpose plusieurs éléments. Qui dit romantisme dit art moderne, c'est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l'infini, exprimée par tous les moyens que contiennent les arts. L'identification du romantisme à la modernité impose à l'artiste romantique les caractères spirituels de son époque. Mais les caractères de l'époque de Baudelaire sont précisément romantiques. Si vous voulez, nous sommes dans un cercle vicieux. Pour être romantique, il faut être moderne. Pour être moderne, il faut assumer l'intimité, la spiritualité, la couleur, l'aspiration vers l'infini, qui sont précisément caractéristiques du romantisme. Donc, pour être romantique, il faut participer de l'essence du romantisme, mais cette essence est historiquement donnée. Elle est la sensibilité de l'époque moderne. Plus qu'un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux, dans le sens que ces notions sont profondément solidaires et s'éclairent l'une l'autre. Il reste à mieux comprendre comment Baudelaire envisage en 1946 le rapport entre l'expression naïve du tempérament et le romantisme. Au début du salon, on l'a vu, ce sont deux données distinctes qui doivent être réunies. Un beau tableau, avait-il écrit, est la nature réfléchie par un tempérament. C'est de l'individualisme bien entendu, avait-il ajouté. À cela devait s'ajouter encore le romantisme en tant qu'expression moderne de la beauté. Mais cette valeur de la naïveté et de la subjectivité ne semble être finalement pas autre chose que l'intimité et la spiritualité qui caractérisent le tempérament romantique. Parce que précisément le tempérament a cessé d'être une pure question d'individu et est devenu une question d'époque, d'histoire, de devenir de la culture. L'artiste doit être lui-même, sans se trahir. Il ne doit pas donner trop d'importance, par exemple, à la querelle de la ligne et de la couleur, et peindre selon ce que la nature a inscrit dans sa sensibilité, parce que la nature a mêlé, écrit Baudelaire, dans chaque esprit, le goût de la ligne et de la couleur, selon des proportions variables. Mais, et là les choses se compliquent, la couleur est aussi présentée comme une caractéristique de la sensibilité moderne et romantique. Le romantisme est coloriste. Donc, d'une part, pour être artiste, il faut suivre son penchant particulier entre couleur et dessin, sans se soucier des écoles. D'autre part, pour être moderne, il faut participer de la mouvance coloriste romantique. En concluant la partie sur la couleur, Baudelaire déclare que les coloristes sont des poètes épiques. Et dans l'épique, nous entendons encore l'héroïque. La question qui se pose est apparemment sans solution purement logique. Mais c'est l'un des grands problèmes théoriques dans lequel le romantisme tout entier s'est débattu. Il n'appartient pas à Baudelaire exclusivement. Comment peut-on être absolument individualiste et croire à la contrainte collective de l'histoire? Comment peut-on penser que l'art est un absolu et penser en même temps qu'il est un produit des civilisations? Comment demander à l'artiste d'être singulier et en même temps d'adhérer à une esthétique précise? L'artiste romantique est pris dans ces paradoxes. Il subit une sorte d'impératif contradictoire. Il doit être moderne, il doit être lui-même. Et si les deux choses ne coïncidaient pas, au moins pas spontanément, sommes-nous sûrs que l'histoire garantit cette identité? Ces paradoxes, Baudelaire les a profondément sentis. Il les exprime dans les fréquents sarcasmes contre le type du jeune romantique, ridicule dans ses affectations, ce jeune romantique qu'il a peint dans La Fanfarlot sous les traits de Samuel Cramer. Ou bien dans l'article sur les martyrs ridicules de Léon Cladel en 1861. Ou encore dans l'idée qu'il y a des contradictions évidentes entre le romantisme et les œuvres de ses principaux sectaires. C'est son mot. Ou encore dans l'opposition qu'il établit entre Delacroix et Victor Hugo, attribuant au premier seulement le véritable romantisme. Delacroix est le vrai peintre du XIXe siècle, écrit-il, alors que Hugo est naturellement académicien. Toujours il s'agit de séparer le faux romantisme du vrai, mais non pas dans le sens d'une conformité à une bonne doctrine. Au contraire, les vrais romantiques sont ceux qui, chez qui on ne rencontre aucun effort de se rendre conforme à une doctrine. Dans la partie du salon consacrée aux écoles, toujours en 1946, Baudelaire raille les imitateurs, ceux qui courent après les couleurs de Delacroix ou les lignes d'Ingres. Mais cette dénonciation des imitateurs, qui manque d'individualité, se croise avec une autre dénonciation, en principe différente. Baudelaire reproche à l'individualisme, qu'il avait d'abord défendu, d'être responsable d'une atomisation de l'art, d'une dispersion dangereuse qui a produit la mort des écoles. Cette glorification de l'individu a nécessité la division infinie du territoire de l'art. La liberté absolue et divergente de chacun, la division des efforts et le fractionnement de la volonté humaine ont amené cette faiblesse, ce doute et cette pauvreté d'invention. L'individualité a mangé l'originalité collective et on peut dire que pour le présent, c'est le peintre qui a tué la peinture. On voit que d'une part, Baudelaire craint que l'individualisme artistique pousse les personnalités les plus faibles à imiter bêtement les maîtres, faute d'identité propre. D'autre part, que ces mêmes personnalités médiocres s'épuisent dans la recherche désespérée d'une originalité improductive. Autrement dit, Baudelaire stigmatise en même temps l'excès d'influence des maîtres qui se font imiter et leur manque d'influence, perceptible dans l'inexistence des écoles. Dans cette impasse, nous retrouvons le problème central du romantisme. Comment être de son temps, collectivement, tout en étant soi-même, individuellement? Le subjectivisme dans l'art mène à cette irrésolution fondamentale. Toute originalité est rongée par le démon de l'imitation. Toute imitation est gâtée par l'impératif de l'originalité. Cela est au cœur du romantisme, et Baudelaire le voit bien. Avec ces textes des années 45-46, nous avons un premier état de la pensée de Baudelaire. Un critique américain qui s'appelait Felix Leakey a suggéré qu'il existe trois systèmes de pensée successifs chez Baudelaire, correspondant aux années 44-47, première pensée, 51-52, deuxième moment, et à partir de 55, le troisième moment. En ce qui concerne le romantisme, le deuxième système correspond à l'époque où Baudelaire l'associe à la doctrine de l'art pour l'art. En 51, dans l'article sur Pierre Dupont, le romantisme est condamné parce que coupable de la puérile utopie de l'école de l'art pour l'art. Utopie qui exclut la morale et stérilise l'art. Baudelaire veut récupérer la morale à ce moment-là et avec elle la joie et l'action qu'il oppose à la tristesse inactive des romantiques. Quelques mois plus tard, l'expression « débordement puéril de l'école dite romantique » revient dans l'article « Les drames et les romans honnêtes » qui semble renverser la position de Baudelaire, et en effet, il tourne cette fois-ci sa polémique contre les moralistes, mais qui maintient l'identification du romantisme avec l'art pour l'art, par une allusion surtout à la préface de Mademoiselle de Maupin. Dans le compte-rendu de l'exposition universelle de 1955, nous arrivons à la troisième phase, Baudelaire retrouve ses préoccupations de 10 ans plus tôt. Il reprend sa défense de Delacroix et accuse encore Victor Hugo de n'avoir rien compris à sa peinture. Il reprend surtout l'historique déjà tracé en 1946, qui donne à la triade David, Guérin, Girodet un rôle dans la naissance du romantisme. Non seulement, cette fois-ci, parce qu'ils ont rétabli un sévère héroïsme après les aimables frivolités de leurs prédécesseurs, mais aussi parce que deux au moins de ces maîtres, Guérin et Girodet, font déjà apparaître, je cite, « quelques légers grains corrupteurs, quelques sinistres et amusants symptômes du futur romantisme ». Il ajoute que le mot, excusez-moi, j'ai sauté une ligne, en 1956, donc une année après l'article sur l'exposition universelle, Baudelaire retrouve l'idée que le mot romantisme contient des notions vagues, mais cependant caractéristiques, et ces notions sont l'expression et l'idéalité. Centré sur l'artiste, l'art d'Edgar Poe trouve sa source en une personnalité aussi mélancolique qu'un romantique paysage. En revanche, peu après, dans le cas de Pinelli, examiné en 1957, l'existence est beaucoup plus romantique que son talent. Donc, dans le cas de Poe, l'art est fondé sur la mélancolie de l'existence. Dans le cas de Pinelli, l'art échoue parce que l'existence est plus mélancolique que l'art. En 58, nous avons l'épisode de la lettre au Figaro, publié le 19 juin. Là, Baudelaire fait une rapide marche arrière au sujet de Victor Hugo. Il dit que la ressemblance qu'on lui trouve avec les écrivains d'une époque que personne n'a su remplacer le flatte. La ressemblance qu'on lui trouve à lui, Baudelaire, le flatte et assure la reconnaissance due à ses aînés. Et nous en arrivons à l'autre grande date qui est 1859. L'autre grande année qui contient en mars l'article sur Théophile Gautier et en juin-juillet le salon. L'article sur Gautier présente un aperçu historique dans lequel le romantisme est vu comme une affaire de génération. Celle de Chateaubriand, celle de Sainte-Beuve et de Vigny, à laquelle il ajoute désormais Hugo pour éviter les impairs, puis celle de Balzac et de Gautier. Dans cette page apparaît l'image du coucher de soleil. Chateaubriand est comme couché à l'horizon, et plus loin Baudelaire s'exclame « Ô splendeurs éclipsées, ô soleil descendu derrière l'horizon ». Ce soleil est clairement le romantisme. Et cela fait penser évidemment au sonnet « coucher du soleil romantique » et à d'autres expressions analogues par lesquelles on a laissé entendre une inactualité du romantisme, au moins en tant qu'école. Par exemple, dans le salon de 1859, il est question d'une grandeur militante comme le romantisme, déjà si lointaine. Le romantisme apparaît donc comme une saison révolue. Une vision de ce genre avait déjà percé auparavant. En 1945, par exemple, on avait déjà trouvé l'expression « vieille gloire romantique » ou « ruine de l'ancien romantisme ». Mais dans le salon de 1959, nous rencontrons aussi un propos très différent. Le romantisme est une grâce, céleste ou infernale, à qui nous devons des stigmates éternels. Voilà que le romantisme, époque historique, devient quelque chose d'éternel. Non pas dans le sens qu'il est hors du temps, mais dans le sens qu'une fois le romantisme advenu, on ne peut plus se débarrasser de lui. La modification qu'il a imposée à l'art n'est pas réversible. Les empreintes du romantisme ne s'effacent pas. L'art en est marqué à jamais. Et c'est pourquoi, quand Wagner viendra révolutionner la musique, Baudelaire, en 61, pourra écrire que ses poèmes participent aussi, dans une forte dose, de l'esprit romantique. En 1862 et 63, revient encore l'idée d'un romantisme comme grande saison. L'époque de la grande lutte, des deux écoles, la classique et la romantique, est évoquée dans le dernier article sur Delacroix. Cette même époque merveilleuse est évoquée dans un compte-rendu de l'exposition Martinet. Époque où régnaient, en commun, écrit Baudelaire, des artistes tels que Deveria, Gros, Delacroix, Boulanger, Bonington, etc. Et il ajoute la grande école romantique, le beau, le joli, le charmant, le sublime. Dans ses derniers écrits, et jusque dans Le peintre de la vie moderne, je ne trouve pas de démenti de la théorie du romantisme que Baudelaire avait définie en 1845 et 46. Je vois plutôt une continuité de pensée au-delà de la seconde période définie par Leakey, celle de 1851-52, qui semble une sorte de parenthèse. Nous avons toujours le grand questionnement sur la nature historique du romantisme, qui le met en perspective et en fait à la fois quelque chose de fini, comme tout ce qui est historique, est de si profondément pénétré dans le caractère moderne que rien ne peut se concevoir en dehors de la révolution romantique. Dans un texte que je n'ai pas encore cité, parce qu'il n'est pas facile à dater, parce qu'il n'a pas été publié par Baudelaire, un texte intitulé « L'art philosophique », Baudelaire semble avoir même dépassé ses contradictions autour de l'art pour l'art. Voici ce qu'il écrit. Qu'est-ce que l'art pur, suivant la conception moderne? C'est créer une magie suggestive contenant à la fois l'objet et le sujet, le monde extérieur à l'artiste et l'artiste lui-même. Plus loin, il précise « C'est surtout l'école romantique qui a fait prévaloir la gloire de l'art pur. » On s'aperçoit alors que la problématique de l'art pour l'art, doctrine reprochée au romantisme en 51, puis largement assumée par Baudelaire aux alentours de 59, est ici restituée au romantisme, mais pour l'identifier à deux autres éléments qui dominaient déjà les années 45 et 46, c'est-à-dire la modernité et la subjectivité. C'est pourquoi ce long chemin chronologique arrive à une synthèse qui, pour être problématique, n'en est pas moins claire. Le romantisme, c'est l'art subjectif, pur, moderne. Mais le moderne, c'est aussi le subjectif, le pur, le romantique. C'est le cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure et dont Baudelaire ne veut pas sortir. D'autres, plus tard, briseront ce cercle et sépareront la modernité du romantisme en interprétant le coucher de soleil comme une mort et non pas comme la mise en scène d'une fin qui ne finit pas, d'une souffrance qui est née avec Werther et qui ne cesse pas d'être actuelle. Le romantisme atteint son coucher de soleil, oui, mais il a toujours été un coucher de soleil. Il est impossible de séparer la mélancolie engendrée par son interminable fin de la mélancolie qu'il a toujours portée en lui. Merci.